entre paroles et musique sur RCF Isère. Une réalisation de Vanessa Curton.
Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission un peu spéciale. Nous sommes en compagnie de Fabrice Vigne. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'être là. Vous revenez, hein, cette émission fait suite à une première émission qui est passée dans le courant du mois de janvier. Vous nous parliez de votre résidence à Troyes, dans la ville de Troyes, où vous étiez en résidence d'écrivain. Vous nous aviez évoqué une petite nouvelle, vous en avez lu un extrait la dernière fois, et cette fois vous allez nous en lire l'intégralité, nous avons cette chance-là. On va vous écouter et on en reparle juste après.
Une lame, un manche. Je suis seul ce soir dans l'atelier. Je n'ai pas faim. J'ai repoussé les outils, étalé mon repas sur l'établi, mais je n'y ai pas touché. J'ai mon couteau dans la main. Je le regarde si fort qu'il me regarde en retour. Le couteau est l'outil de l'homme, son tout premier outil. L'homme fabrique des couteaux depuis 1 million d'années. Mon maître me posait la question « Qu'est-ce qu'un couteau ?» Mais j'étais alors incapable de définir ce que j'avais dans la main et il répondait lui-même « Un couteau est soit un outil, soit une arme, parce qu'il est les deux. J'ai longtemps médité cette phrase, et j'ai fini par reconstituer toute l'histoire. Oh, on a raconté l'histoire de bien des façons, mais moi c'est ainsi que je la comprends, et que je la raconte encore ce soir, rien que pour moi, dans l'atelier désert. Le singe devint homme le jour où, il y a 1 million d'années, il tailla son premier silex pour extraire de la pierre une ligne tranchante. Le jour où, jugeant insuffisants les dents et les ongles que lui avait donné la nature, il décida d'augmenter son corps au moyen d'un artifice effilé. De pierre d'abord, de bois, de cornes, puis de métal, un prolongement solide, maniable et pénétrant. L'homme naquit en même temps que son couteau. Alors, l'homme, conscient d'être plus dangereux grâce à son corps augmenté, osa s'attaquer aux rennes, aux bœufs musqués ou aux mammouths. Il les chassa et revint vainqueur de la chasse. Il découpa leur viande, il découpa leur cuir, il découpa leurs chairs et leurs os. Le premier homme dans un monde de singes était un prédateur et tranché dans le vif. La créature augmentée d'un couteau était la plus puissante de la tribu. Elle en devint tout naturellement le chef. Dès son retour triomphal de la chasse, elle donna un grand festin pour célébrer l'ère nouvelle, l'ère du couteau, l'ère du chef, l'ère de l'homme. Il y aurait là de quoi manger pour tout le monde, car le couteau était instrument de partage, accessoire de la fête, outil des promesses. Le premier homme redistribua généreusement les bienfaits du couteau, et tous les singes siégèrent au banquet, sautèrent le pas, devinrent hommes à sa suite, tranchant dans le vif, et viande, et cuir, et chairs et os. Le progrès s'enclenchait à grands coups de lame, la civilisation débutait. Prométhée est le nom du premier coutelier, je le sais bien, moi. Peu après, le premier homme s'inquiéta de ses rivaux. Il perçut les regards jaloux lancés de biais par ceux qui trouvaient injuste que le chef s'arroge tout le pouvoir, alors qu'il serait fort possible et même facile que le couteau changeât de main. Le premier, qui n'était plus qu'un parmi les autres, douta. Il se demanda s'il avait bien fait de partager avec ceux-là les bienfaits du couteau. Il réfléchit alors et vérifia que sa lame de pierre pénétrait aussi aisément plus aisément encore la chair d'un autre homme que celle d'un mammouth, et que tuer un autre homme était un excellent moyen, plus efficace encore que la chasse, de garder la main sur les richesses, sur les festins, sur les femmes, sur le pouvoir. Grisé, l'homme venait d'inventer le second usage du couteau. Il se débarrassa de ses rivaux, puis accrocha à sa ceinture le couteau, encore ensanglanté, afin qu'il demeurât bien visible de tous, car Prométhée venait aussi d'inventer le symbole. C'est ainsi qu'il assit définitivement son pouvoir, définitivement, du moins jusqu'à ce qu'un autre homme, mais c'est une autre histoire, ou plutôt c'est la même qui recommence, alors arrêtons-nous et retenons la morale de l'histoire. Le singe est devenu un assassin peu de temps après être devenu un homme. Combien de temps au juste, on ne le sait pas, mais on peut supposer que l'intervalle fut bref. Le couteau a permis l'un et l'autre. Le geste était le même, dans le vif. C'est ce qu'on appelle le double tranchant. Je fabrique des couteaux. Disons, je fabriquais. J'ai consacré la plus grande partie de ma vie à fabriquer des lames et des manches et à relier l'un à l'autre, 50 ans exactement. Ce sera ma contribution à l'histoire, mes 50 ans parmi le million d'années des couteaux. J'ai appris geste à geste, encore adolescent, le métier auprès d'un maître coutelier, et je me souviens comme si c'était ce matin de la première chose que mon maître m'enseigna. Une lame n'a pas toujours deux tranchants, mais elle a toujours deux faces. Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qu'il voulait dire, et 50 ans pour le vérifier. Tout a toujours deux faces, tout a deux aspects. Si bien que tant qu'on n'a pas regardé deux fois, on n'a rien vu. Une lame, un manche. C'est simple, retournez-le et regardez-le à nouveau. Vous découvrirez un nouvel objet. Un manche, une lame. Vous pouvez sans mal en faire l'expérience, présenter un couteau à votre voisin en lui tendant soit le manche, soit la lame. Vous constaterez aussitôt, en observant la taille de ses pupilles, la forme de sa bouche, le rythme de sa respiration, que votre voisin ne voit pas dans votre main le même objet. Mon couteau est dans ma paume. Je le fais lentement glisser. Mes phalanges ne se referment plus sur son manche, mais sur sa lame. La pulpe est éprouvée. Il en faudrait si peu pour que je voie le sang. Le couteau tranche et sépare. Par nature, le couteau est partageur. L'idée simple et parfaite d'une lame sur un manche a ainsi profité à nombre de métiers. Et c'est par corporations entières que les singes devenaient hommes, sans qu'on sache si chaque métier commandait à Prométhée son couteau personnel, ou bien si ce sont les couteaux qui, un à un, inventaient les métiers. Le couteau a dolé du gantier, le couteau a écorché de l'abatteur, le couteau a ébauché du potier, le couteau a déraciné du jardinier, le couteau a ébourré du tanneur, le couteau a saigné du barbier, le couteau a bordé du cordonnier, le couteau a débordé du savetier, le couteau a opéré du chirurgien, le couteau a lardé parmi 20 autres couteaux du cuisinier, a découpé, a préparé, a épluché, a tranché, a saigné, a haché, a lever, à ouvrir, à émincer ou à servir. Le couteau a mastiqué du vitrier, le couteau a paré du bourrelier, le couteau a lancé de l'acrobate de cirque, le couteau à papier de l'écrivain public. Infini comme le génie humain, les couteaux à admirer par l'œil et par la main. Simultanément, le poignard du condottiere, la dague du spadassin, le kanjar du mercenaire, le kris du pirate, la navaja de l'hidalgo, le surin du truand, le stache du marlou, le douk-douk du colonial, la baïonnette du fantassin. À chaque homme sa lame, à chaque homme son geste. J'ai mon couteau dans une main, de l'autre j'effleure sa lame, son plat, son fil, puis je le retourne et je change de main. La gauche a toujours été moins bonne. L'homme est coupable ou non coupable. L'outil, lui, coupe. Il n'est coupable de rien. Innocent comme à l'aube de l'humanité, comme au moment de Prométhée. Un outil n'est jamais bon ou mauvais selon la morale. Il est uniquement bon ou mauvais selon son efficacité, sa robustesse, sa prise en main, son adéquation à l'objectif qu'on lui assigne ou au nouvel objectif qu'on lui invente en cours de route. C'est ainsi, ainsi seulement, dans sa fonction remplie, qu'un outil devient beau. Une bonne baïonnette qui pénètre un ventre sera toujours plus belle qu'un mauvais couteau de peintre qui bave. D'ailleurs, un peintre qui n'arriverait à rien avec son mauvais couteau devrait le jeter sans tarder et essayer de peindre à la baïonnette. Qui sait, d'une belle baïonnette longue, lourde, pointue, lubrifiée, à double tranchant, naîtraient peut-être des chefs-d'œuvre. Mon couteau caresse ma main. Moi, je l'ai réalisé, mon chef-d'œuvre. C'était un motif de plaisanterie entre mon maître et moi, je me souviens, lorsqu'il pointait dans mon travail une maladresse, une erreur. « Celui-ci n'est pas encore ton chef-d'œuvre, » disait-il, à la fois pour me mettre en garde et pour me consoler, et surtout pour rire. J'ai fini bien plus tard par réaliser mon chef-d'œuvre, mais alors mon maître était mort et moi, j'étais déjà vieux. Il m'aura fallu auparavant fabriquer bien d'autres couteaux, peut-être seulement dans le but de parvenir un jour à celui-ci. Mes deux mains ont appris chaque geste en les répétant, en les ajustant, en m'améliorant. Dessiner, forger, frapper, tremper, ajuster, revenir, meuler, façonner, monter, polir, poncer, orner, puis saisir. Et respirer, prendre quelques secondes pour admirer et couper. Faire pénétrer la lame dans la matière, sentir la matière céder et s'ouvrir et le couteau triompher. Je ne me souviens pas de tous mes couteaux, mais presque. Ceux du moins qui étaient beaux, ceux que j'avais si bien réussi que je regrettais toujours un peu de devoir les céder à qui me les avait commandés, ceux que j'avais rendus spéciaux pour une raison ou pour une autre. La grâce de son fil, l'harmonie de son angle de coupe, la finesse de son onglet, le raffinement de sa parure, l'élégance de son fourreau, la vigueur de son dos ou la rigueur de sa pointe, l'équilibre de son pommeau ou l'esprit de son talon. L'éclat de son acier et la rareté de son bois, la courbe de sa lame et le poids de son manche, sa façon unique, toujours unique, d'épouser ma main, puis de la quitter. Je me souviens de tout cela, un par un. Je ne confonds pas l'un avec l'autre, on ne confond pas deux amis au prétexte qu'ils ont la même couleur d'yeux. Pour certains, je suis même capable de dire à qui je les ai vendus. Je sais s'ils sont de bonnes ou de mauvaises mains. Le couteau n'est pas coupable. Le couteau coupe, en mauvaises mains comme en bonnes. Après des décennies de travail patient sur les couteaux des autres, et seulement après la disparition de mon maître, je me suis consacré à mon chef-d'œuvre. De soi-même, on sent quand on est mûr pour l'accomplissement, la perfection touchée du doigt. J'étais prêt pour le couteau que je n'échangerai jamais contre de l'argent, que je conserverai jalousement. Celui que je pourrais appeler mon couteau, dont il m'appartiendrait et à moi seul de décider s'il prendrait place dans une bonne main ou une mauvaise main. Ma main. Ma main comme la dernière pièce rivetée au couteau. Le couteau pour la main pour le couteau. Ma main droite agrippe le manche de mon poing gauche. Je serre la lame jusqu'à ce que je sente l'ancier sur le point d'entamer l'épiderme. Puis j'ouvre la main, la paume et les phalanges sont couvertes de lignes rouges. Mais le couteau et moi ne sommes pas allés jusqu'au sang. Je plie, déplie mes doigts. Pour la circulation. À la mort de mon maître, nous étions alors nombreux car les clients affluaient et nous avions une certaine réputation. C'est moi qui ai pris la tête de l'atelier. C'est donc moi, et non mon maître, qui ai assisté au lent déclin de notre atelier, de notre métier, de nos gestes et de nos couteaux. Mon maître n'a rien connu de tout cela, sa disparition en était moins triste. Voilà le bon côté du double tranchant. Même quand on meurt, il vaut mieux regarder à deux fois. Les autres, ah, les autres sont ensuite partis, un à un. Comment les retenir? Il n'y avait plus assez de travail pour tous. Certains ont trouvé un emploi, je ne dis pas un métier, je dis un emploi à l'usine. L'adéquation à l'emploi est le seul critère pour juger l'excellence de l'outil. En peu d'années, je suis resté seul. Même ainsi, j'étais loin d'être débordé par le travail. Les clients et les commandes se faisaient rares, puis très rares, puis ont presque disparu. J'avais tout mon temps, seul dans ce grand atelier, pour réfléchir à la disparition des couteaux et des couteliers, à la mort de Prométhée. Mais je ne comprenais pas. Les hommes avaient-ils cessé de trancher? 1 million d'années, et c'était terminé? Cela me paraissait impossible. Seul et sans ouvrage, je revenais pourtant chaque jour dans l'atelier. J'aimais me trouver en cet endroit. Entre le foyer de forge et la meule, entre l'enclume et la presse, j'avais l'impression d'être aussi exactement à ma place que ce couteau-lait dans ma main. Je regardais, parfois je manipulais encore les outils sur l'établi. Le mètre pliant, gravé d'un côté en centimètres et de l'autre en pouces. Une centaine de limes et râpes, plates ou rondes, les polissoirs de toute taille, les forêts et harçons, les petits bidons d'huile, les paquets de tiges d'inox, bronze, argent et or pour tailler les clous, et puis les planes à deux mains, les étaux, marteaux, poinçons, pinces et scies. Le soir, je continuais à passer le balai, comme après une journée de travail, mais il n'y avait plus rien à balayer. Certains jours, toute mon activité se résumait à cela. Je regardais mes outils la journée. Le soir, je balayais un sol propre. Je ne crois pas que j'étais malheureux. Puis, je me suis souvenu du double tranchant. J'ai regardé mon désœuvrement une seconde fois, d'un autre œil et d'une autre extrémité. J'ai compris qu'en avoir fini avec les couteaux des autres était aussi une bonne fortune. C'est à cette période que j'ai fabriqué mon chef-d'œuvre. J'ai pris la décision en riant et en pensant à mon maître. Une fois lancé, j'étais heureux de ne plus recevoir de commandes. Les commandes m'auraient empêché de penser à mon chef-d'œuvre. Les formes possibles, danser la sarabande sur l'établi, seraient-ils droits ou pliants, à mitre ou de plein manche, de forme alpine, rouennaise, corse ou garonnaise, à talons ronds ou à cran plat, en manchement sur soie ou plat de semelle, bague simple ou virole tournante, lame d'acier pur ou de damas, bourbonnaise en feuille de sauge, yatagan ou turc. Dans tous les cas, il serait parfait. Il l'est. Il est dans ma main. Je le soupèse et j'ai l'impression qu'il vibre et qu'il est chaud comme un petit animal. Lame en acier 440, pointe légèrement relevée, tranchant impeccable, contre-tranchant plus épais mais presque aussi affilé à la pointe, un bois de hêtre verni, trois rivets, un cran de sûreté. Une idée simple et géniale depuis 1 million d'années. Une lame sur un manche. C'est mon dernier couteau. Je n'en fabriquerai plus. Je ne comprenais pas la disparition des couteaux. Je n'ai compris que dimanche, ils n'ont pas disparu. Dimanche matin, sur le marché, j'ai vu un crieur haranguer la foule. Tout un euro, tout un euro. Je me suis approché de son stand, j'ai vu pêle-mêle dans l'étal des brosses à dents électriques, des lampes de camping, des cibles pour fléchettes, des chronomètres, des fleurs en plastique, des bougies, des peignes par l'eau, des lunettes de plongée, des barres chocolatées, des antivols, des bassines, des allumes-gaz, des portefeuilles, des gants. J'ai approché la main, j'ai soulevé du bout des doigts un emballage léger en carton noir et plastique dur qui criait aussi fort que le camelot en lettres capitales. 10 couteaux aztèques. Sous l'emballage translucide dormaient parallèles 10 objets longilignes et pointus, manches en plastique noir, lame inox dentée, 10 objets taillés par une machine en porte-pièce dans une plaque de tôle, 10 produits identiques à part d'imperceptibles accidents d'usine, une bavure de plastique ici ou là, une dent moins finie que sur le voisin, 10 semblants de couteaux qui ne dureraient guère. Je vois déjà sur l'un d'eux les plaquettes du manche légèrement disjointes. Il suffirait peut-être d'agiter l'emballage pour qu'ils se disloquent tous les 10. Mais cela ne fait rien. S'ils ne durent pas, ils seront remplacés immédiatement par leurs semblables. 10 couteaux aztèques, 10 autres semblants de couteaux. 1 seul euro. Comment un seul et même mot a-t-il pu à ce point changer de signification? Ce sont des couteaux. Ce sont eux désormais, les couteaux. Ils n'avaient pas disparu. Ils sont vendus à la criée. L'artisanat est mort parce qu'il a fait son temps. Et moi aussi. L'atelier est vendu à des promoteurs. Je suis venu ce soir le regarder pour la dernière fois. Je suis assis sur ma chaise face à l'établi. J'ai déployé devant moi le dernier repas que je prendrai ici, parmi tous mes outils. Et j'ai mon couteau dans la main. Je sais ce qu'il me reste à faire avec mon chef-d'œuvre. Ce couteau idéal, capable de pénétrer impérieusement la chair, d'ouvrir la matière et de la fendre, de la faire céder, de la traverser de part en part, et de la révéler en la partageant. Tranché dans le vif pour en finir. Je sais la seule, l'unique chose qu'il me reste à faire, utiliser le couteau conformément à son usage pour célébrer son absolu, son excellence. J'empoigne fermement mon couteau et je me coupe une tranche de pain. J'entame la croûte, je traverse la mie. De sensations, de bruit, un seul geste, net. Quel plaisir!
Quel plaisir de vous entendre et de vous voir lire en studio ce texte, cette nouvelle qui s'intitule « Double tranchant », Fabrice Vigne.
Oui.
C'était presque théâtral.
Oui. C'est sans doute une manière de lire très, très physique, puisque ce texte est lui-même un hommage au corps qui travaille, au corps des artisans. Oui.
Comment est-ce qu'il est né ce texte?
Alors, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est devenu par la force des choses un texte très très lié à ma résidence à Troyes, puisque je l'ai écrit dans la bibliothèque de la maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes. Et je suis très content que ce texte poursuive son chemin de plein de façons différentes. D'abord par cette performance que vous m'avez donné l'occasion de faire ici. Merci Vanessa.
Merci à vous d'être venue. Une création radiophonique, c'est toujours agréable.
Oui, pour moi aussi, c'était très excitant. Ensuite, il va devenir un livre, j'espère bien, avec des illustrations de Jean-Pierre Blampin. Un ami illustrateur à qui je l'ai confié, parce que j'aime beaucoup,
C'est lui, c'est vous qui lui avez demandé de faire les illustrations de ce livre.
Oui, et puis ça faisait un moment qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, et donc ce sera ça. Donc pour le moment, ce texte et les illustrations de Jean-Pierre sont en lecture chez divers éditeurs. On va voir. On va voir qui va trouver preneur.
Donc suite au prochain épisode, comme voilà. On dit, on verra.
Et puis, encore un autre avatar, une autre forme de vie pour ce texte. Il va faire l'objet d'une exposition, ainsi que les illustrations de Jean-Pierre d'ailleurs, qui vont être inclus dans cette exposition, assurée par les gens formidables, très stimulants et stimulés du Centre de ressources pour l'enfance de Tinqueux, qui sont chargés de transformer en relief, en exposition, le travail des auteurs en résidence à Troyes. Donc j'ai pris contact avec eux et autour de ce texte-ci. Si tout va bien, là, depuis que je ne suis plus à Troyes, je ne surveille ça qu'à distance, mais si tout va bien, cette expo aura la forme d'un atelier de coutelier, donc avec, vraiment avec des objets en trois dimensions, avec les illustrations de Jean-Pierre qui se joignent à ça.
C'est-à-dire que vous allez travailler avec des enfants ou avec des adultes? Alors, la forme d'un atelier aussi.
Elle sera tout public, c'est-à-dire que les enfants comme les adultes seront les bienvenus, et elle sera inaugurée au moment du prochain Salon du Livre de Troyes, c'est-à-dire en octobre 2012, et ensuite elle sera itinérante. J'espère qu'on pourra la voir dans la région.
Bah, ce serait fort sympathique. Hein
oui.
Fabrice Vigne, on retrouve dans Double Tranchant, cette nouvelle que vous venez de nous lire, une certaine critique de la société de consommation qui arrive et qui revient régulièrement dans vos textes.
Oui, effectivement, souvent dans ce que j'écris, il y a une forme de résistance à l'ambiance générale de notre société qui est la société de consommation. Il faut appeler un chat un chat. Et je crois qu'une des formes de résistance les plus élémentaires, c'est la création. C'est la beauté résiste à la consommation.
Sur ces belles phrases, on pourrait parler de votre blog où on peut vous retrouver, on peut retrouver une suite de votre écriture et votre actualité.
Oui, le blog a été tenu quotidiennement pendant les 4 mois de ma résidence à Troyes. J'ai abandonné ce rythme journalier, mais
Il y a quand même 100 épisodes.
Oui.
Merci en tout cas d'être venu sur RCF Isère. Est-ce qu'on peut juste donner le titre, le nom, l'adresse de ce blog, Fabrice Vigne?
Oui, c'est fondutiroir avec 2D, fondutiroir.com/blog.
Donc un blog qui est affilié à votre maison d'édition, le Fond du Tiroir.
Absolument.
Merci beaucoup Fabrice Vigne.
Merci à vous.
Bonne semaine à tous.